Le journal Jérôme Jadot. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. L'île de Beauté, à nouveau en proie aux flammes. 1800 hectares partis en fumée sur le Cap Corse. Près d'un millier de personnes évacuées hier soir. Le vent a fortement compliqué le travail des Canadairs, qui reprend toutefois ce matin. Nous serons sur place dans le journal. Des consommateurs déboussolés qui marchent sur des œufs face au scandale de la contamination au fipronil. On a appris hier soir qu'au-delà des 250 000 œufs frelatés mis en rayon en France, d'autres produits ont été ou vont être retirés de la vente. Dans le journal également, le mur souterrain qu'Israël construit tout autour de la bande de Gaza pour se prémunir des tunnels du Hamas. Et puis dans 10 minutes, le journal des sports avec Kevin Mayer, bien parti à mi-course dans le décathlon aux Mondiaux d'athlétisme, alors qu'en Ligue 1, Nice est déjà à la peine.
France Inter.
Des bourrasques jusque 120 km/h qui ont cloué les Canadairs au sol, des flammes parties de l'ouest du Cap Corse et qui ont gagné l'est ensuite, menaçant les communes de Cisco et de Pietra Corbara. 300 pompiers mobilisés pour tenter de contenir cet incendie face à sa progression. Un millier de personnes, dont une bonne partie de campeurs, ont dû être évacuées hier. Maxime Beckmer, vous avez passé une partie de la nuit avec eux.
Oui, la nuit aura été extrêmement difficile ici dans le Cap Corse, ravagé par les flammes depuis maintenant un peu plus de 24 heures. Ce matin à Cisco, on a le sentiment de se réveiller d'une guerre. Les visages des habitants et des vacanciers qui ont dû passer la nuit dehors sont inquiets, cernés, noircis par les cendres. Épuisés aussi les soldats du feu, près de 300 engagés sur cet incendie. Ils n'auront pas eu de répit, ils ont dû procéder notamment à la mise en sécurité de 200 personnes environ, pour qui les flammes étaient bien trop près des habitations. Et puis il y a eu ces centaines de familles qui paniquaient par la tournure des événements, ont dû tout laisser derrière elles. Beaucoup ont passé la nuit sur les plages, dans les voitures, sur des terrains vagues ou dans l'un des centres d'hébergement d'urgence mis à disposition par les communes. Côté bilan, provisoirement 1800 hectares de végétation détruite, pas d'autres dégâts matériels selon les autorités. Le vent est retombé mais la fumée est toujours très épaisse. Le feu progresse désormais très lentement et les moyens aériens viennent de revenir sur site pour réaliser des largages très attendus.
Maxime Beckmer de France Bleu RCFM à Cisco pour France Inter. Deux autres incendies étaient en cours hier soir près de Calvi et dans une zone périurbaine de Bastia.
La suite du scandale des œufs contaminés au fipronil, des produits ont et vont encore être retirés des rayons en France.
Oui, c'est ce qu'a annoncé hier soir la Direction Générale de l'Alimentation. Il s'agit de produits à base d'œufs potentiellement contaminés par l'insecticide. Mais le ministère de l'Agriculture ne veut pas dire de quels aliments il s'agit. Il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur des marques alors que la contamination ne pourrait concerner que quelques produits, fait-on valoir. Un peu plus tôt dans la journée, le ministère a annoncé que près de 250 000 œufs frelatés avaient été mis sur le marché en France depuis le mois d'avril. Le dernier lot, fin juillet, dans des supermarchés Leader Price, dura à avaler pour les clients de l'enseigne. Delphine Evenou.
Deux grosses boîtes de 10 œufs sous le bras, André a ses recettes en tête.
Des omelettes, les œufs sur plat pour des petits déjeuners.
L'affaire de la contamination au fipronil, il a vu passer ça il y a 2 semaines en Allemagne. On lui dit que les œufs frelatés ont passé la frontière et se sont nichés dans certains magasins de l'enseigne.
Vous faites la grimace là?
Ah bah oui, parce que là vous me l'apprenez, j'étais pas au courant en fait.
Et pour ceux qui sont au courant?
J'en ai fait avant-hier, j'ai fait des œufs à la coque et donc mon mari il était un petit peu réticent en me disant bah, « t'as entendu ?» Oui, j'ai entendu, mais bon. Avec tout ce qu'on entend à la télé, plus rien n'est bon à manger, quoi.
Et puis il y a les clients qui sont définitivement brouillés avec les œufs.
Je ne les touche plus et ce que j'avais chez moi, j'ai tout jeté en fait. Et les voisins, pareil. Je ne comprends pas comment ça se fait encore qu'ils sont toujours dans les magasins.
Parce qu'il n'y a pas de risque pour la santé, rappellent les autorités sanitaires et Leader Price. Le groupe, informé de la fraude le 4 août, a tout de suite fait retirer les œufs en question de ses rayons. Il ne faut pas crier au loup, acquiesce Benjamin Dourieux du magazine 60 millions de consommateurs, mais il y a de quoi être déboussolé.
C'est vrai qu'on a l'impression de découvrir des nouveaux éléments chaque jour, presque chaque heure. Donc effectivement, comme consommateur, c'est extrêmement déroutant. Et encore une fois, malheureusement, ça ne peut que susciter la méfiance des consommateurs.
Les états généraux de l'alimentation viennent d'être lancés, rajoute-t-il. Profitons de l'occasion pour être plus transparents.
Les autorités sanitaires assurent en effet qu'on peut consommer sans s'exposer à un risque aigu jusqu'à 10 œufs frelatés par jour pour un adulte, un seul pour les enfants de moins de 3 ans. 17 pays sont désormais concernés par ce scandale qui s'étend jusqu'à Hong Kong.
8h05 sur France Inter, la suite du journal Jérôme Jadot. Au Kenya, Raila Odinga échoue à nouveau à conquérir la présidence.
Quatrième échec pour le candidat de l'opposition. Il recueille un peu moins de 45% des suffrages, 10 points de moins que le sortant Uhuru Kenyatta, résultat qualifié de mascarade par une partie de l'opposition. Des émeutes ont éclaté dans certains de ses fiefs, alors que les partisans du président sortant ont chanté et dansé dans les rues. Les mots toujours plus va-t-en-guerre du président des États-Unis, solution militaire prête à l'emploi, a-t-il encore répété hier à propos de la Corée du Nord, propos belliqueux qui vise aussi désormais le Venezuela, option militaire possible si nécessaire, martèle Donald Trump, ce serait un acte de folie, répond Caracas. On a tous des images du haut mur construit autour de la Cisjordanie. C'est cette fois un mur invisible qu'Israël est en train de bâtir autour de la bande de Gaza. Un mur souterrain pour contrer les tunnels creusés par le Hamas. L'État hébreu vient de décider d'accélérer les travaux pour tenter de rendre l'enclave palestinienne totalement hermétique. Un chantier gigantesque, Étienne Monin.
Et ce chantier pharaonique pour les Israéliens est la réponse à la menace cauchemardesque des tunnels offensifs creusés par le Hamas en direction du territoire israélien. Ces tunnels sont devenus une obsession depuis la guerre de 2014. D'abord, l'opinion publique a pris conscience de leur dangerosité. Ensuite, d'après un rapport important, ils n'ont pas été entièrement détruits pendant la guerre. Il y a donc eu une grosse pression en début d'année sur le gouvernement pour apporter une réponse convaincante. Cette barrière s'enfonce sur plusieurs dizaines de mètres. Sa construction devrait permettre de percer d'éventuels tunnels existants. Elle sera ensuite équipée de capteurs pour détecter des mouvements souterrains. Elle va encercler les 65 km de frontière. Elle va coûter 700 millions d'euros. Les travaux ont déjà commencé. Ils vont s'accélérer en octobre. Cette barrière est considérée comme un tournant dans la gestion sécuritaire de Gaza. Les tunnels sont considérés comme la dernière véritable menace. La guerre de 2014 contre le Hamas avait montré la limite des tirs de roquettes. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Quand les pays en développement servent de poubelle à l'Europe. 330 tonnes de déchets ont été saisies par les douanes au mois de juin dans des ports français. Des déchets plastiques, électroniques, censés être recyclés, mais qui sont exportés en toute illégalité dans des pays du Sud. Sandy Dauphin.
Des pneus usagés à destination de l'Afrique de l'Ouest, de vieilles batteries de voitures de Guyane en partance pour l'Amérique du Sud, mais aussi des déchets électroniques et 150 tonnes de plastique vers la Malaisie. Voilà ce que les douaniers français ont trouvé en l'espace d'un mois. Des exportations illégales, rappelle Étienne Cartou de la Direction Générale des Douanes.
Il s'agit d'entreprises qui cherchent à échapper aux coûts de traitement des déchets en Europe. Voire parfois des opérateurs qui pratiquent un certain opportunisme économique en considérant que ce qui est un déchet chez nous peut être encore utilisé, valorisé dans certains pays. La problématique est que ce type de produit ne doit en tout état de cause pas partir vers des pays dans lesquels il n'y a pas des capacités de valorisation ou d'élimination adaptées.
Un phénomène tristement connu des associations de défense de l'environnement, Jackie Bonnemain de l'ONG Robin des Bois.
Ils vont dans des décharges, ou bien ils sont brûlés, ils émettent des pollutions atmosphériques, ou bien les métaux, après un désossage, sont récupérés dans des conditions difficiles par des enfants et des femmes.
Et pourtant, le consommateur français paye une taxe pour que l'électroménager qu'il achète soit recyclé en bonne et due forme, pas pour qu'il termine sur une décharge à ciel ouvert dans un pays en voie de développement.
Eux se mobilisent contre une décharge sous terre, bien chez nous. Festival des antinucléaires ce week-end à Biancourt-sur-Orge, près de Bure, dans la Meuse. Conférence, table ronde et spectacle pour protester contre le futur site d'enfouissement de déchets radioactifs.
Et on reste sous terre, Jérôme Jadot, avec un concert dans les entrailles précisément de la terre.
Concert tout sauf en plein air, donc hier soir pour le trompettiste Jean-Claude Borelli. Il a fait résonner son instrument au fond d'une grotte. Manon de Dervedet l'a accompagné dans le gouffre de Proumessac, c'est en Dordogne.
Le trompettiste se prépare à descendre sur la petite scène aménagée pour lui au milieu de la grotte. À quelques minutes du concert, devant ces immenses stalactites, il est un peu impressionné.
Déjà le fait de descendre tout au fond de ce gouffre, c'est étonnant, quoi. Je veux dire, on n'a pas l'habitude de ce genre de sonorité, donc il faut s'adapter. Vraiment, c'est une expérience unique, hein.
Les lumières de la grotte se tamisent et les premières notes de la trompette résonnent. « De l'Ave Maria au lac du Connemara, en passant par du gospel et évidemment son tube Dolan Melody. Le répertoire est varié et la grotte se transforme tantôt en église, tantôt en karaoké. Après une quinzaine de morceaux et un rappel, le concert s'achève et en sortant de la caverne, le public est conquis.
Super, génial. On en a pris plein la vue, plein les oreilles.
Le lieu magique.
Moi, j'ai trouvé que l'acoustique du gouffre convenait parfaitement, largement satisfait.
Jean-Claude Borelli termine en beauté sa tournée 2017 en Dordogne. Manon Derdevé, France Bleu Périgord pour France Inter.
Dordogne vers laquelle ne manqueront pas de se diriger de nombreux vacanciers aujourd'hui, journée classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs, comme d'ailleurs dans celui des retours pour ceux qui ont le bonheur de retourner au travail.
Merci Jérôme Jadot, on passe au sport.
France Inter. Le 6-9 de l'été.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Au championnat du monde d'athlétisme à Londres, on va vers la fin, il ne reste plus que deux journées. Kevin Mayer, le français, tient son rôle de favori dans le décathlon.
Il est en tête effectivement après la première journée de compétition. Il a 57 points d'avance sur son premier poursuivant, l'allemand Kai Katsmireff. Et le vice-champion olympique semble donc en très bonne voie pour décrocher le titre mondial. Mais maintenant, il va devoir affronter la seconde journée et les cinq dernières épreuves, gérer la fatigue et la douleur, Franck Ballanger.
Tous les décathloniens le disent, il est quasiment impossible de terminer un décathlon sans avoir mal quelque part. La douleur fait partie du jeu. Le mieux est encore de ne pas y penser, ni avant, ni pendant, pour ne pas se faire peur. L'oubli de soi, une stratégie efficace pour Kevin Mayer.
On sait que peu importe ce qu'on fait avant, on ne sera pas prêt pour le décathlon. On sait que pendant, on aura des moments de fatigue qu'on n'a jamais eu avant. Mais c'est quelque chose qu'on arrive à gérer et quelque chose qu'il faut se mettre en tête avant d'y arriver. Vous ne pouvez pas imaginer les journées comme elles sont longues avant le décathlon, surtout quand c'est à la fin des championnats. On se tourne les pouces et on refait le décathlon 100 fois. Et si on n'a pas des proches autour de nous qui nous changent les idées, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué.
Mais Kevin Mayer et les décathloniens ne sont pas de grands masochistes. S'ils persistent, c'est que le plaisir en vaut la chandelle. Pour Kevin Mayer, ce plaisir est toujours plus fort que la fatigue ou la douleur. Sinon, il renoncerait sans aucun doute. Le vice-champion olympique trouve même dans l'exercice une certaine forme de noblesse.
Il ne faut pas confondre le fait qu'on va aller jusqu'au bout de nous-mêmes et qu'il y aura de la douleur avec le fait que ce soit pénible. Si on fait du décathlon, c'est qu'on adore le décathlon et qu'on aime souffrir. C'est beau d'aller au bout de soi-même, c'est une découverte de soi-même et c'est une fierté en soi. Donc c'est un bonheur extra.
À Londres, Franck Ballanger, France Inter.
Parlons encore de la soirée d'hier soir sur ces mondiaux de Londres. Quentin Bigot a terminé quatrième de la finale du lancer de marteau, remporté par le Polonais Fadjek. Jamais un Français n'avait fait aussi bien sur des mondiaux ou des Jeux Olympiques. Et pour le Mosellan, il est peut-être temps d'arrêter de parler de sa suspension passée pour dopage. Il se voit dans la peau d'un athlète comme les autres et il sait apprécier sa performance.
Je pense que j'ai prouvé par A plus B que j'étais revenu proprement. Ceux qui y croient pas aujourd'hui, c'est de la mauvaise foi et tant pis pour eux. Je fais quatrième, je trouve que c'est une belle place pour un premier grand championnat. Après tout ce que j'ai traversé deux ans en arrière, je trouve que voilà, j'ai rien à me reprocher. On va continuer à travailler avec mon entraîneur, je le remercie d'ailleurs, parce que voilà, une quatrième place, c'est la meilleure place qu'un Français n'ait jamais fait au marteau dans un grand championnat. Je suis très content, voilà, je peux pas... Certains diraient, ouais, quatrième, c'est la place du con, oui, certes, mais je pars huitième au bilan, je finis quatre. Rien à me reprocher.
Suite donc de ces mondiaux d'athlétisme, aujourd'hui à Londres, nous pourrons le vivre grâce à nos envoyés spéciaux sur place, sur France Inter. Le décathlon, on vous en parlait tout à l'heure, la suite du décathlon, et aussi le début des relais.
Alors vive le foot hein, maintenant Laetitia Bernard, puisque c'est la deuxième journée de Ligue 1 de football ce week-end.
Oui, et Nice par contre a du mal à lancer son championnat. Hein. Déjà battu à Saint-Etienne la semaine dernière, les Niçois se sont inclinés hier soir 2-1 face au promu 3. Pas très rassurant en plus à 5 jours du match de barrage aller de Ligue des Champions à Naples. Le défenseur Arnaud Souquet au micro de Dominique Poulain.
Je pense que là, par rapport à l'année dernière, c'est que pour l'instant, on prend trop de buts. C'est difficile de marquer dans le foot et nous, on en prend trop. Alors, on a peut-être un manque de réussite parce que je crois qu'elle est contrée sur la deuxième. On a plein d'autres cases en première où elles sont contrées, il manque pas grand-chose. Je sais pas si c'est inquiétant parce que vous le savez comme moi, quand vous jouez des matchs de Ligue des Champions, c'est un très bel adversaire, mais la motivation est liée aussi. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être une bonne répétition, je pense, pour arriver avec le plein de confiance. Et là, on se retrouve un petit peu à être frileux parce qu'on prend des buts et c'est dommage.
À l'Olympique Lyonnais, en revanche, on était plutôt détendu hier soir. L'OL est en tête du classement provisoire grâce à une nouvelle victoire 2-1 face à Rennes. Le président Jean-Michel Aulas salue le travail de son équipe.
Il y a trois choses, je pense, qu'il faut remarquer. Bon, c'est le très haut niveau technique des attaquants. Deuxièmement, la solidarité et l'efficacité défensive. Et puis, troisièmement, l'état d'esprit. Les dernières minutes où la tempête soufflait sur Rennes, on a réussi à vraiment maintenir le résultat. Sur ces trois aspects, l'Olympique Lyonnais a beaucoup changé.
Propos recueillis par Christophe Delacroix. Suite des matchs ce week-end. Cet après-midi, Marseille se déplace à Nantes à 17h. Et puis dès 20h, à suivre Amiens-Angers, Bordeaux-Metz, Caen-Saint-Etienne et Toulouse-Montpellier. Le tout à vivre sur France Info dans le multiplex de Jacques Vendroux. Et je précise que le Paris Saint-Germain et Neymar joueront demain soir à Guingamp en clôture de cette deuxième journée de Ligue 1. On termine avec le tennis et une grosse déception. Déception pour Adrian Manarino, dernier français en lice au tournoi Masters 1000 de Montréal. Il s'est incliné cette nuit en quart de finale face à l'incroyable Canadien de 18 ans, Dani Shapovalov, tombeur de Rafael Nadal. Le score de 6, 6-3, 6-4. Et Adrian Manarino qui avait du mal à contenir ses larmes à la fin de la rencontre.
C'était dur, il a très bien joué, il s'est bien servi du public. Il a joué très bien dans les moments importants et il a mérité sa victoire. Ouais, il y a l'interruption par la pluie qui est un peu difficile parce que je me fais rebriquer à froid en reprenant et c'est un peu difficile de perdre le deuxième set comme ça. Maintenant, il a été plus fort, c'est tout.
Adrian Manarino battu par Dani Shapovalov et j'ajoute que Roger Federer s'est qualifié pour les demi-finales à Montréal.
Merci Laetitia Bernard. Le temps, c'est avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Une France coupée en deux aujourd'hui, effectivement une perturbation très nuageuse intéresse une bonne moitié nord du pays, elle s'étend de la Bretagne au Hauts-de-France en passant par la région parisienne, des Pays de Loire à la région Grand Est et jusqu'en Franche-Comté, elle va s'accompagner par moments de pluie faible et n'attendez pas d'amélioration aujourd'hui. En revanche, grâce à l'action de l'anticyclone des Açores, le soleil sera au programme de la journée au sud d'une ligne La Rochelle-Lyon-Chambéry. Mistral et Tramontane vont souffler entre 60 et 70 km par heure en basse vallée du Rhône. Côté température, les maximales sont toujours fraîches dans la moitié nord et comprises entre 18 et 23 degrés. Ailleurs, l'ensoleillement va favoriser une légère hausse du mercure. On attend par exemple 24 degrés à Cognac, 26 à Toulouse, 29 à Perpignan et à Bastia et jusqu'à 30 degrés dans la région nimoise.
Merci Jean-Pierre Hameau.